des conseils et des astuces pour avoir la main verte sur notre territoire. Bienvenue dans Brin de Jardin, les chroniques d'un jardinier.
Bienvenue dans notre chronique Brin de Jardin avec la participation de Romain Jacquet-Laforge que l'on retrouve tous les mois sur notre antenne, nous distiller des conseils en matière de jardin pour avoir toujours un peu plus la main verte et aussi de manière ponctuelle un autre Romain, donc un tandem de Romains autour de cette table aujourd'hui, Romain Murga, pépiniériste à Échevis, qui va aussi bien sûr nous donner de bons conseils en matière de tout ce qui est horticulture et précisément ce qui concerne parfois aussi les fruitiers. Bonjour Romain et bonjour Romain.
Bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, c'est un sujet assez sensible qui va nous animer, notamment avec cette saison de printemps qui a des fois des soubresauts et aussi des inquiétudes en matière de température. Ça, c'est la grande inquiétude souvent de ceux qui font pousser des arbres fruitiers ou autres espèces du jardin.
Oui, tout à fait. Je voulais vous parler aujourd'hui du gel de printemps. Donc, c'est un sujet d'actualité suite à l'épisode de gel qu'il y a eu fin mars par chez nous. Donc, le gel de printemps, c'est un des principaux fléaux en arboriculture, mais faut faire avec parce que ça fait partie des aléas. On dit qu'il peut geler jusqu'à mi-mai. Donc, c'est pas étonnant d'avoir du gel fin mars, en avril. Donc par exemple, en 2023, il y avait eu du gel au 20 avril qui avait fait des gros dégâts parce que plus les arbres sont avancés et plus ils sont sensibles. Souvent, on pense que ça concerne uniquement les dégâts concernent uniquement les fleurs. Mais en fait, une jeune fleur à peine ouverte est beaucoup plus résistante qu'un fruit. Donc à partir du moment où l'arbre démarre, il est sensible au gel. Le gel de printemps, c'est principalement du gel par rayonnement. Donc c'est du gel qu'on observe quand les nuits sont claires. Et les températures descendent généralement jusqu'à moins 3, difficilement en dessous, par nuit claire. Donc quand il y a des nuages, ça fait un effet de serre en fait, et le rayonnement froid du ciel est bloqué. Le rayonnement du chaud du sol est également bloqué par cette couche de nuages. Ça évite le gel. Donc ce gel par rayonnement, il s'observe surtout dans les bas-fonds. C'est un gel qui crée un gradient de température, donc une stratification des températures assez importante. Donc on a des températures qui peuvent être négatives au niveau du sol, et quelques mètres au-dessus du sol, les températures redeviennent positives, parce qu'en fait le froid descend par une densité plus forte des masses d'air froid. Donc les dégâts sont inversement proportionnels à la température, c'est-à-dire que plus il fait froid, plus il va y avoir de dégâts. Jusqu'à moins 2,5, moins 3, généralement, toutes les fleurs ne sont pas détruites, mais en dessous de moins 3, c'est ce qu'on va appeler les gelées noires, à l'inverse des gelées blanches. En dessous de moins 3, là, ça devient vraiment catastrophique et on perd énormément de fleurs et la mise à fruit est fortement pénalisée. Alors généralement, après un épisode de gel, on s'aperçoit pas quand on regarde notre arbre, on ne voit pas que les fleurs ont été détruites, simplement parce que la corolle de pétale n'est pas impactée. Il faut aller voir un petit peu plus près, faire une investigation un peu plus en profondeur pour constater les dégâts. Et donc sur les fruits à pépins, fruits à noyaux, il faut regarder le conceptacle. Le conceptacle, c'est une petite poche qui est à la base de la corolle de pétale, dans laquelle il y a l'ovaire. Et c'est ce conceptacle qui va grossir et qui va donner le fruit. En fait, le conceptacle doit alimenter la future graine. Et donc, la chair se développe autour de l'ovaire pour justement créer le fruit. Et donc, pour bien le repérer, c'est simplement cette petite bulle qui est reliée à l'arbre par le pédoncule de la fleur. Et c'est assez simple de voir si la fleur est impactée ou pas. Simplement, en coupant le conceptacle, on regarde si c'est noir ou si c'est encore vert. Et sinon, simplement attendre quelques jours et voir si le conceptacle continue son développement. Cette observation, on peut la faire sur les fruits à pépins et les fruits à noyaux. Mais il y a aussi d'autres fruitiers qui sont impactés par le gel. Donc, notamment les kakis, les kiwis, les kiwis. Et donc là, c'est des arbres qui vont avoir des dégâts sur la feuille, parce que la feuille en fait apparaît avant la fleur, et la feuille est sensible au gel, à l'inverse des feuilles, des fruits à pépins et des fruits à noyaux. Et donc sur ces fruitiers, kiwi, kiwa et kaki, on a une fructification qui se fait sur les rameaux de l'année. Donc en fait, quand donc les rameaux qui sont censés se développer au printemps, donc si le gel détruit les jeunes pousses, ça pénalise aussi fortement la mise à fruit, même si les fleurs ne sont pas directement impactées vu qu'elles ne sont pas présentes à ce moment-là. Donc comment on fait pour se prémunir du gel ? Pour les arboriculteurs professionnels, il y a différentes techniques. Il y a l'utilisation de bougies de paraffine, donc simplement on fait du feu pour amener de la chaleur. Donc ça coûte quand même assez cher, il faut compter à peu près 2000 euros par hectare et par nuit, donc c'est des choses qui sont pas forcément accessibles pour les particuliers.
Alors, en plus, il faut se lever pour aller les allumer, quoi. Enfin, c'est la course contre la montre, hein, j'ai l'impression, moi.
Voilà. Parce que les bougies, elles ont une durée de vie qui oscille selon les modèles entre 8 et 12 heures. Donc, on peut, une bougie de 8 heures, on peut pas l'allumer à 19 heures avant d'entrer à la maison, sinon, au petit matin, il n'y a plus rien. Donc, il faut bien surveiller les températures et intervenir au bon moment. Donc, c'est quand même une bonne corvée de travail.
Sans parler de la pollution en plus.
Enfin, sans parler de l'impact carbone, ouais. Vu qu'on fait brûler du pétrole pour protéger ces vergers.
Ça fait des gros nuages noirs et qui sentent très mauvais, enfin assez mauvais, quoi.
Alors la fumée, elle a l'avantage de bien protéger aussi le verger parce qu'elle crée un effet de serre qui empêche l'échange de température entre le rayonnement céleste et le rayonnement du sol. Après, on a une autre technique qui est beaucoup plus écologique et beaucoup plus pratique pour l'arboriculteur, mais qui est aussi très onéreuse, c'est investir dans une éolienne qui permet de déstratifier les couches de température, en fait simplement en brassant de l'air un peu plus chaud à quelques mètres au-dessus du sol, et le mélanger avec l'air froid qui est au niveau du sol, on va pouvoir protéger son verger. Donc une éolienne, ça peut protéger des surfaces qui sont assez grandes, à condition qu'on soit dans un environnement avec une topographie qui soit adaptée. Par exemple, moi, sur le site de ma pépinière à Écheville, dans une vallée très encaissée, en fait, la poche d'air froid, elle est tellement... Elle prend tout le fond de la vallée jusqu'à à peu près 200 mètres au-dessus du sol. Et là, une éolienne, elle serait complètement inefficace. Et il y a une troisième technique qui est écologique, mais qui est très technique. C'est la protection par aspersion. En fait, ça consiste à enrober les fleurs dans un cocon de glace. Donc il faut brumiser de l'eau sur son verger pendant toute la période de gel et continuer jusqu'au dégel progressif. Et avec cette technique, on peut arriver à de très bons résultats, à condition que le froid ne soit pas trop fort et que les températures redeviennent positives au petit matin, parce que sinon les arbres vont ployer sous le poids de la glace et ça peut faire énormément de casse. Et donc là, pareil, c'est des techniques qui sont réservées aux professionnels parce qu'il faut des débits d'eau assez importants. Il faut compter à peu près 40 mètres cubes par hectare et par heure. Donc sur une nuit, on va mettre à peu près 400 mètres cubes d'eau à l'hectare.
Puis après, il y a des zones des fois qui ne sont pas encore ouvertes à l'irrigation, j'ai l'impression. Enfin, pas chez nous, je ne sais pas comment ça se passe ici dans le coin, mais moi je vois vers Saint-Lathier, par là-bas, l'eau pour l'irrigation n'est pas encore ouverte en fait. Donc voilà. ça dépend des endroits.
Ouais. C'est ça, oui. Donc si on a un réseau autonome, on peut se permettre de le faire à condition d'avoir des débits qui soient suffisants. Alors comment on fait quand on est un particulier et qu'on ne peut pas mettre ces choses en œuvre ? Bah, alors malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a peu de moyens mécaniques qui sont efficaces. Le plus connu, ça va être le voile d'hivernage. Mais c'est une technique qui se limite aux petits arbres, parce qu'on peut pas recouvrir de grands arbres avec ce voile. En plus de ça, l'efficacité est assez limitée. Ça va permettre de gagner quelques dixièmes de degrés. Donc sur des grands froids, ça aura assez peu d'impact. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est plutôt chercher par la conduite de ces arbres et ces choix techniques en amont, arriver à se prémunir du gel. Donc par exemple, un arbre haute tige, un arbre greffé sur franc, va être plus résistant qu'un arbre nain, simplement parce qu'avec le fait qu'il soit un petit peu plus haut, il va avoir des fleurs qui vont être assez éloignées du sol où s'accumule le froid, et certaines fleurs vont pouvoir être épargnées du gel. Ensuite, il peut y avoir des choix comme le choix du porte-greffe qui peuvent influencer sur le gel, par exemple pour les pruniers. On peut avoir les grands classiques, ça va être un porte-greffe, le prunier mirobolant, prunus serradifera. et le prunier domestique. Le prunus serrasifera, donc le mirobolant, c'est un arbre qui démarre très tôt au printemps. C'est un des premiers à fleurir dans nos campagnes, à partir de fin février, début mars. À l'inverse du prunier domestique qui va fleurir presque trois semaines, un mois plus tard. Et en greffant sur un prunier mirobolant, on va hâter un petit peu le démarrage au printemps. Donc choisir un porte-greffe un petit peu moins pressé, ça permet de décaler de quelques jours. Vraiment, ça ne joue pas à grand-chose, mais 1, 2, 3 jours le démarrage de notre variété.
Moi, je me rappelle, à l'époque, mon père avait un abricotier. Il était dans la plaine de la Bièvre. Et il fleurissait vraiment plus tard que les autres, et parce qu'il n'avait pas le même porte-greffe, ouais, effectivement.
Ouais, c'est des choses qu'il faut bien prendre en compte au moment de la plantation. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre aussi? Ben, choisir des espèces fruitières qui sont résistantes au gel. Par exemple, dans le monde des Actinidia, les deux grandes espèces cultivées, c'est le kiwi et le kiwai. Moi, souvent, pour plaisanter, je dis que le kiwi, c'est aussi précis qu'un thermomètre. Dès que ça descend en dessous de zéro, les feuilles gèlent dans la foulée. À l'inverse, le kiwai s'avère un petit peu plus solide. Ça peut descendre à moins 1, moins 2, voire éventuellement moins 3. Et on continue... on peut avoir certains bourgeons qui ne sont pas touchés. Donc c'est un petit peu plus costaud. Ensuite, il y a des espèces qui sont complètement insensibles. Ça va être tout ce qui est fruits rouges, cassis, cassissier, groseillier, groseillier à macro. Ça, c'est des espèces qui sont pas problématiques vis-à-vis du gel. Dans le monde des prunus, il y a le prunier mirobolant. Souvent, on dit que ça fait pas des bonnes prunes, c'est un petit peu petit en calibre, c'est pas très sucré. Pour autant, il y a des cultivars qui s'avèrent étonnamment bons. Et cet arbre, il est exceptionnellement résistant au gel, c'est vraiment incroyable. Chaque année, il fleurit très très tôt, il se prend du gel chaque année. Et pourtant, la production de prunes est abondante et régulière chaque année. Donc il y a des arbres qui peuvent tolérer des gels assez forts sur les fleurs sans trop d'impact. Donc dans le même genre, il y a le nashi. Le nashi, c'est une espèce du genre pyrus. Ça fait des fruits qui sont un peu moins savoureux que la poire. Très juteux, très croquant. Mais pareil, moi j'ai observé des gels jusqu'à moins 3, moins 4, avec une mise à fruits assez abondante. Ensuite, il y a des espèces qui fleurissent beaucoup plus tard que les autres. Donc par exemple, en ce moment, là, à la mi-avril, on est sur la floraison du pommier, du cerisier, alors que les pêchers et les abricotiers ont fleuri depuis plus d'un mois. Donc en plantant ces espèces-là, on est beaucoup plus épargné par le gel. Le poirier, ça va être une espèce qui se situe un petit peu à l'intermédiaire sur la fin mars. Et au sein même des espèces, on va avoir une grande disparité selon les variétés. Donc j'avais déjà fait une émission sur le kaki. Je peux reparler du kaki, la variété Nikita's Gift, qui est un hybride kaki, Diospyros kaki, le kaki du plaque minier du Japon, et Diospyros virginiana, plaque minier de Virginie. Et cette hybridation lui permet de démarrer beaucoup plus tard au printemps. Donc là, cette année, j'ai eu aucun dégât sur cette variété-là, alors que sur les Diospyros kaki, donc le plaque minier du Japon, des dégâts qui sont relativement importants. Dans les pommes aussi, on peut avoir une grande disparité, des floraisons très précoces et des floraisons beaucoup plus tardives. Donc typiquement, une variété locale comme la pomme barbe, elle a pas du tout démarré à cette période. Les bourgeons à fleurs sont encore dormants, alors que d'autres variétés sont en fin de floraison. Donc voilà, à voir selon les variétés que vous voulez planter. Choisir, si vous êtes exposé au gel, choisissez bien des variétés assez tardives en floraison, et rien de mieux qu'un pépiniériste local pour vous conseiller sur ces dates de floraison.
Merci Romain. Petite précision pour cette saison 2026, ça a été sensible en termes de variation de température, ce que l'on a pu connaître précédemment là pour ce début de printemps. Ça a apporté des côtés assez obscurs au jardin, aux pépinières, ou ça a bien tenu le coup, en ce qui concerne notamment ta pépinière à HB?
En pépinière, ça pose aucun problème parce que en fait, on cherche pas à produire du fruit, on cherche à produire des arbres. Donc les bourgeons à fleurs nous préoccupent pas en pépinière. Il y en a d'ailleurs très peu, vu qu'on cherche plutôt à greffer du bois pour former des arbres. Donc le gel n'a pas de conséquences sur les fruits à pépins et les fruits à noyaux. Sur les kakis, c'est un petit peu plus problématique, mais voilà, il faut s'adapter. Donc moi, ce que je fais, c'est que je greffe, j'attends que ça gèle, j'attends que ça redémarre, et ensuite je greffe assez tard, début mai, et ça permet d'avoir des sions qui sont quand même assez jolis, même si on greffe tard, ça permet d'avoir des arbres de joli calibre. Et ensuite, tout ce qui est kiwi, kiwai, effectivement, ça c'est gélif, donc on peut essayer de protéger au mieux, mais bon, si ça gèle, ça finit toujours par repartir quand même un petit peu plus tard. Donc en fait, la conséquence principale, c'est une perte de calibre, mais on perd pas la production à cause d'un gel de printemps à -2, -3.
Merci Romain Murga, pépiniériste à Jeuilly, et merci à Romain Jacquet Laforge, notre jardinier de Brin de Jardin, chronique à retrouver de manière hebdomadaire sur l'antenne de Radio Royan Vercors. À très bientôt.